chantait de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission. Il est l'heure, Monseigneur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Et bien voilà, l'équipe est au complet pour vous aujourd'hui. Il y a d'abord Valentine. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Bonjour Ricardo.
Bonjour. Moins enjoué que
Valentine. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Josiane.
Hello.
Et bonjour Jean-Josiane. Non, Jean-Jacques.
Ah, c'est génial.
Il n'y arrivera pas.
Jean-Josiane.
Allez, bonjour, c'est Jean-Jacques.
On commence par la même initiale.
On se retrouve tout de suite après le premier morceau qui va vous faire deviner l'année mystère, j'espère. Et on se retrouve tout de suite après. Le morceau, Valentine, c'est lequel?
On va commencer par Sony, qui est une interprétation de Anthony
Richard.
Richard. Non, c'est Richard Anthony. Pardon.
Non, mais tu l'avais dans le désordre, quoi.
Ce matin encore, c'était l'hiver. Sony, depuis que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil dans les rues, sur les toits. Le printemps est revenu avec toi. Et je t'aime toujours, mon amour. Sonny, c'est déjà la fin de ma longue nuit. Sonny, à nouveau pour moi, le soleil, nuit. J'ai eu des mauvais jours dans le vent et la pluie. J'avais si peur que tu m'oublies. Mais tu m'aimes toujours, mon amour. Sonny, tu m'as ramené tant de soleil. Sonny, le ciel est si bleu quand je m'éveille. Je me vois déjà aux vacances d'été. Les beaux jours durent toute l'année. Et je t'aime toujours, mon amour. Sonny, merci pour toutes les choses que je te dois. Pour tout le bonheur d'être avec toi. Oh merci pour le regard que tu poses sur moi. Et pour les images que j'y vois. Et je t'aime toujours, mon amour. Oh Sonny, ce matin encore c'était l'hiver. Depuis que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil dans les rues, sur les toits. Le printemps est revenu avec toi. Et je t'aime toujours, mon amour. Oh, mon amour. Oh oui, mon amour.
C'était donc Richard Anthony avec Sonny. Bon, on parlait du plaisir de se retrouver sans masque pendant le morceau.
Et des gens qui devaient le garder parce que ça préserve l'intégrité visuelle de certains.
Bon. L'année mystère, en l'occurrence, est-ce que les uns ou les autres, vous aviez des événements à nous relater?
Ah oui, j'en ai deux pages. Alors, je vais pas commencer par vous donner le nom du président parce que ce serait trop facile. Mais enfin, le premier ministre de l'époque, c'était Monsieur Pompidou. Donc, ça vous remonte quand même à un certain temps. Et c'était également l'année où, justement, la France quitte l'OTAN.
Autant n'importe le vent.
Voilà. Ça, il fallait le faire.
Parce que, notre chef refuse d'être impliqué automatiquement dans une guerre. Oui. Voilà, hein, il veut avoir sa liberté. Oui, le machin. Voilà. Alors, c'était aussi la grande époque où on envoyait tout dans l'espace. Hein. Des satellites français, russes, américains.
La belle-mère.
Dans ce genre de truc également, on a eu l'explosion de la première bombe atomique française sur l'atoll de Fangataufa. Non, voilà, c'est là. Alors, dans les trucs joyeux, après je change. Les trucs joyeux, ben, c'était la guerre du Vietnam.
Voilà. Effectivement, très
joyeux. Donc, c'est fini, je change.
Elle est modeste en termes de bonheur, Josiane, c'est ça qui est bien.
Alors, l'inauguration de l'usine marémotrice de la Rance. Également, c'était le début du mouvement hippie en Amérique.
Hippie-pipoura.
Voilà.
C'est toi, hein? C'est pas moi. Donc.
Alors, comme je sais que vous êtes très axé sur la musique, c'était l'année du dernier concert des Beatles.
Puis c'est Mr. Rockin's Tour et c'est Beatles.
Alors, puisqu'on était dans la musique, c'était les débuts de Mireille Mathieu. Et puis alors celui...
Josiane, j'ai juste une question. Oui. Mireille Mathieu, tu connais Valentine?
Je connaissais de nom, par contre, les chansons, je ne les connais absolument pas.
Tu connais la coupe? Josiane, tu nous fais une petite ritournelle de Mireille?
Ben, je ne sais plus trop, parce que là, elle en a tellement. Non, il y en a une, par contre. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux dans 20 ans, si tu veux.
Je connais pas ça, je connais pas ça.
Voilà.
C'est Antoine.
Et puis...
Les élucubrations d'Antoine.
Voilà, les élucubrations d'Antoine. Et puis alors, il y en a un autre aussi qui était très connu. Et moi. Dutron.
Jacques le père.
Jean-Josiane Dutron.
Voilà. Et puis on avait comme chanteur aussi, bien sûr, Michel Delpech. Alors, comme vous êtes très sportif, mais j'ai compris qu'en dehors du football, vous n'étiez pas des masses, mais enfin, quand même.
Oh là là.
Ah oui, quand même.
Cette année-là... Ah oui. Nantes est champion de France.
Eh oui, les Canaries nantais.
Et le Real remporte la Coupe d'Europe.
Bon, on ne veut pas beaucoup parler du Real vu qu'ils viennent d'éliminer Paris, mais...
mais si je ne m'abuse, il y avait aussi la Coupe du Monde.
Ah, ben voilà, Jean-Jacques.
Alors, il y avait quand même, dans le rugby, hein, je sais que vous aimez pas, mais enfin, en tournoi des cinq nations, la France écrase l'Angleterre. Alors,
c'est peut-être ce qu'elle va faire bientôt.
Ben oui, et d'ailleurs, pour la première fois, on est en pole position pour remporter le tournoi des...
Pour la première fois.
Le nombre de grands chelems gagnés, c'est... on en a gagné 9, c'est le 10e potentiel.
Ah oui. Je suis pas très rugby, mais c'est la première fois que je m'y intéresse, parce qu'il y a de l'engouement, surtout que le meilleur joueur du monde est et français actuellement. Bah,
c'est qui?
Je ne connais, je saurais pas dire son nom, mais c'est un jeune français.
Monsieur Dupont.
Un illustre inconnu.
Je ne suis pas très rugby.
Je ne vais pas m'étendre sur la boxe, mais enfin, Cassius Clay est toujours champion du monde. Alors, comme vous êtes très axé cinéma, vous souvenez d'un film qui s'appelle Fahrenheit 451? Et alors, le film qui a été primé à Cannes cette année-là,
Un homme et une femme,
bien sûr.
Le seul film dont je me rappelle de cette période-là, ça va être La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourville.
D'accord.
Qui a été un des plus gros succès du cinéma pendant des années.
Je l'ai vu, revu.
Je crois que c'est par les ch'tis.
Oui.
Et
avec beaucoup d'improvisation des deux axes d'acteurs. Hein. Ils n'ont pas suivi obligatoirement le scénario, ils nous racontaient.
Et ça passe régulièrement à la télé. Ça marche encore.
Moi, je le regarde à chaque fois.
Ils ont toujours leur public. Hein. C'est impressionnant.
Vous savez que pour la petite anecdote, ils ne s'entendaient pas très bien, Bourville et Louis de Funès ensemble. Ah ouais, non, ils ne s'entendaient pas très bien parce que ils se volaient la vedette. Et en fait, Louis de Funès avait besoin de se mettre vraiment en valeur tout le temps, tandis que Bourville était un peu plus discret, plus timide. Donc, il se volaient la vedette tout le temps.
C'est vrai qu'il prend beaucoup de place, même à l'écran, Louis de Funès. Mais bon, je l'adore.
Alors, il y avait eu un hommage particulier à Pablo Picasso, qui était vivant à cette époque. Et il y avait une grande exposition à Paris qui présentait plus d'une centaine de ses œuvres, pas seulement picturales, mais parce que comme il a touché à beaucoup de choses, la sculpture, tout un tas de trucs.
Il continuait à ce moment-là de payer ses restaurants avec des dessins. Oui. Il paraît qu'il descendait au coin et il mangeait et il faisait un petit croquis sur la petite serviette. Alors,
attends, ça c'était pour payer le repas.
Oui.
Mais par contre, il ne le signait pas parce qu'autrement, l'autre mec allait au restaurant.
Ouais.
Alors, il y a quelque chose que vous allez peut-être pouvoir me compléter parce que dans les décès, hein, c'est pas très drôle, mais il y a eu la mort de Violette Nozière. Ouais. Est-ce qu'elle a été guillotinée ou pas? Parce que en fait, elle était en prison depuis de longues années, et je me demande si c'était l'une des dernières personnes.
Angevine. C'est l'Angevine.
Qui a été décapitée, quoi. Enfin, décapitée ou enfin qui a été mise à mort.
Je crois. Si c'est l'Angevine, c'est la dernière femme à avoir été condamnée à mort. C'est celle qui avait tué son mari à coups de hache.
Oui, c'est ça.
C'était Angevine.
Il y a eu un film qui a été fait.
Oui,
voilà, Isabelle Huppert.
Oui.
Et si c'est vraiment, parce que j'ai plus le nom en tête, mais si c'est elle, c'est la dernière femme à avoir été condamnée à mort.
Oui.
Mais pas le dernier homme, bien sûr, mais je crois que c'est la dernière femme.
Alors évidemment, il y a une mort, moi, qui m'avait beaucoup marquée cette année-là. Nous avons perdu notre Walt Disney international.
Magnifique auteur, très inspiré. Voilà.
Alors on avait eu aussi le départ de Jean Lurçat, dont la femme a fait don d'un certain nombre de tapisseries à Angers.
Oui, l'apocalypse, les tapisseries de l'apocalypse.
Le dernier, parce que comme il a été président de la République, c'était le départ de M. Vincent Auriol. Donc, grosso modo, c'est tout mon tour d'horizon de ce que
c'était pas mal.
Merci, Josiane.
Beaucoup d'infos.
Elle a bien travaillé. Beatles, et je dirais même le dernier concert de Jacques Brel sur scène.
Ah bon?
La Beatles, c'est pas San Francisco? Parce que je sais que j'ai revu.
San Francisco, si.
C'est ça? J'ai revu ce concert.
Le 29 août, exactement.
J'ai revu ce concert. Ça a été mis sur internet.
Vous n'êtes pas discipliné aujourd'hui. Hein. On voit que ça, ça part dans tous les sens.
Ils arrêtent la scène et la tournée.
Non, mais comme on sait que tu ne peux plus parler beaucoup parce que tu n'as pas préparé, on meurt.
Alors justement.
Et ça, tu le gardes.
Alors justement, on va faire une petite pause musicale et je vais laisser Valentine nous annoncer le morceau qu'on écoute maintenant de l'année Mystère, que Jean-Jacques ne redira pas.
Ah donc il s'agit Juanita Banana de Henri Salvador.
Juanita Banana.
Dans un village de La Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pichait rien à la musique, disait: ma fille a une drôle de voix. Elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant: au diable les bénènes, je me lance aussi dans la chanson. Et alors?
C'était Juanita Banana de Henri Salvador. Donc, on a pu bien voir que vous aimiez beaucoup cette chanson, tous.
Bon, on aimait bien Salvador aussi.
Ça nous rappelle une époque aussi.
Je veux dire, dès qu'on le voyait à la télévision, on rigolait.
Bah, oui.
Faut
dans le ventre.
Faut rigoler.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a encore des musiciens comme ça qui font des chansons humoristiques? Est-ce que vous en connaissez?
Si, il y en a.
Fatal Bazooka.
Par exemple. Souvent, quand pour ceux qui ont des enfants, ils sont calés là-dessus, tu vois. Il a réagi tout de suite, Raphaël. Mais il y en a aussi, surtout, qui sont rigolos malgré eux.
Ils vont peut-être pas faire une carrière là-dedans.
Et pour cette émission aujourd'hui, on a un sujet d'actualité, puisqu'on va aborder un pour ou contre sur le boycott.
Oh là là, c'est grave là.
Boycotte le sujet.
Bon, effectivement, le boycott, c'est un acte militant de consommateurs ou qui peut être pris à l'échelle collective. Aujourd'hui, ça a une résonance particulière à cause des conflits qui sont entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. Vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué le boycott, les uns et les autres?
Alors, tu parles de... Moi, juste pour comprendre, tu parles du boycott en général, dans tous les domaines, par exemple, tu décides de boycotter le sujet russe. Ah oui, je le vois fait de grandir, donc c'est en général. Parce que moi, j'avais surtout pensé élection. Oui, enfin, c'est une arme, c'est une arme. Mais en matière d'élection, pour moi, c'est une arme qui ne doit pas, alors, qui ne doit pas être utilisée, en fait. Je comprends ceux qui disent, de toute façon, je ne suis pas écouté, donc je ne vais pas voter. Pour moi, ne pas choisir, c'est choisir. Parce que si tu ne choisis pas, les autres le feront pour toi et tu subiras quand même ce choix.
Tout à fait.
Donc, au moins, au-delà de l'acte citoyen, on peut se faire entendre. Et entre deux mots, parce que évidemment, on peut être aujourd'hui se sentir ne pas être écouté par la classe politique, mais entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre. Et donc, c'est une histoire de compromis, hein, c'est comme un couple.
Après, ça me rappelle les petites phrases de Coluche, hein, ni pour ni contre, bien au contraire. Mais il disait aussi, si, quand tu penses qu'il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour qu'ils arrêtent de le vendre, ça peut être aussi une alternative. C'est vrai que c'est un pouvoir du consommateur. Non,
justement, moi je pense que on parle du pouvoir d'achat. Moi je pense qu'on peut parler du vouloir d'achat.
Du
vouloir d'achat.
D'accord.
Parce que si un acte qui est quotidien, bien sûr, c'est l'acte de consommation, puisqu'on est dans une société de consommation. Mais je pense que ce que je constate, c'est que moi j'ai pratiqué sur un produit. Je vais vous dire pourquoi. Je ne citerai pas les marques, mais sur le beurre. Je prenais un beurre d'une certaine marque et à un moment donné, j'ai raisonné par rapport aux agriculteurs. Vous savez, à un moment donné, prix du lait n'est pas payé. Il y avait une grande firme sur laquelle j'achetais mon beurre. Eh bien, j'ai changé dans mon linéaire. À partir du moment où je suis très sensible à ces questions vis-à-vis des paysans, et j'ai changé. Maintenant, j'ai changé de marque de beurre.
Et depuis, la marque a coulé d'ailleurs, pour qu'on finance.
Il
était le consommateur exclusif.
Non, mais là, c'est un. Non, non, je suis pas bête. Par contre, je pense que le boycott, c'est peu employé, mais quand c'est employé vis-à-vis des entreprises, ça fait très très mal. Ça a un impact énorme, d'une part sur la vente réelle, mais surtout aussi pour l'image
de marque.
Parce qu'ils passent, ils mettent de l'argent, énormément d'argent, dans la publicité, justement, pour qu'on veuille acheter leurs produits. Et quand le consommateur fait marche arrière et met en évidence, je peux vous dire, une marque précise, ça résonne mal, très 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 fort.
Non,
c'est sous-utilisé à mon avis.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, comme je dis, boycott, moi je suis contre au niveau du vote électoral, électoral. Mais pour tous les autres domaines, je suis. Comme je disais, c'est une arme parce que tu tapes au portefeuille, tu te fais entendre.
Mais attends. Faut faire une différence, parce que le boycott électoral, ça veut dire que les gens qui ne votent pas ne boycottent pas forcément. Ils se désintéressent. C'est pas un acte militant à ce moment-là. Ça les intéresse pas. Ou ils ont autre chose de mieux à faire, mais c'est pas le boycott. Le boycott, pour moi, c'est une décision personnelle. Bon, alors, elle est bonne ou elle est pas bonne, ça, je veux dire. C'est comme, bon, moi, au niveau de la consommation, je boycotte tous les produits qui sont mauvais. C'est tout. Mais personnellement.
Qui respectent pas nos valeurs.
Selon trop gras, trop sucré, trop jeune, ou alors avec plein d'additifs qui sont dangereux ou cancérogènes et tout ça. Voilà, c'est ça.
Mmh, mais.
Par contre, il y a aussi quand même, par rapport au boycott entre guillemets politique, il y a l'exemple célèbre de Gandhi, par exemple, qui a boycotté les produits anglais pour gagner l'indépendance. Enfin, c'était son
projet. C'était une décision politique.
Et il a décidé, enfin, il a proposé aux Indiens de reprendre le fameux rouet pour tisser leur propre tissu et ne pas utiliser, ne pas acheter les tissus anglais. Alors, donc ça, c'est quand même intéressant.
Mais bon, là, il y a la personnalité de Gandhi.
Ah oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas demander aux gens non plus de revenir au Moyen-Âge. Non. Là-bas, il y avait une différence moindre, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que moi, de temps en temps, je parle avec des personnes. Je dis, mais pourquoi t'achètes ce produit? Tu sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, mais enfin, on va pas. Et il y a une négligence, quoi. Il y a une négligence, mais une négligence tout à fait assumée. Hein. Mmh. Il y a des gens, moi, je les vois se servir, ça me surprend toujours. Ils prennent des trucs. Alors, ils ont peut-être l'habitude. Je suis même pas sûr. Par exemple, quand tu prends une boîte d'œufs. Hein? Bon, ben, au niveau de la date limite, tu peux peut-être essayer de choisir. Mmh. Ils en ont rien à faire, mais c'est comme ça.
Alors, Jean-Jacques, sans être moi de contre ce choix-là du produit, effectivement, je pense qu'on peut pas être de tous les combats, malheureusement.
Bien sûr que non.
Et il y a un moment, c'est pas de la résignation, mais voilà, on peut pas tout vérifier, d'une part. Hein, et enfin, j'ai envie de dire, à moins d'être vegan, d'être végétalien, enfin.
Mais je suis d'accord, mais il y a un minimum quand même. Enfin, on a, comme je t'ai parlé, chacun a ses échelles de, on va dire, de valeur, de morale et tout, mais il faut au moins prendre, moi, quand je fais mes courses, je prends, comme disait Jacques, un peu des produits qui me respectent, que je suppose qu'ils me respectent un minimum, ou qui respectent, voilà, ce que mes valeurs. Évidemment, on peut pas être de tous les combats, mais bon, moi, je regarde quand même un minimum, pas trop cancérigène, pas trop, enfin, au moins la santé.
Non, mais.
Pas trop, parce qu'on peut, évidemment, même dans le bio aujourd'hui, on trouve qu'il y a encore des pesticides. Donc,
mais sans être, comme tu dis, dans tous les combats, je veux dire, ça demande un effort un peu minime si tu as des habitudes d'achat. Si tu as l'habitude, si tu as vérifié une fois un produit et que tu as l'habitude de l'acheter, parce que tu sais qu'il est bon, ça va. Donc ça te coûte rien, il suffit de le trouver et de l'acheter.
Sans tomber dans le militantisme, on peut, oui, on va choisir, on choisit quand même. Donc on choisit au moins un truc qui nous respecte et respecte notre santé, à minima, quoi.
Ou favoriser éventuellement des produits français.
Aussi.
Oui, le miel, les trucs.
Mais je pense que quand même la décision de prendre un boycott, enfin de lancer un boycott sur une entreprise, enfin sur une marque d'entreprise, c'est redoutable.
Hein, c'est une âme terrible parce qu'ils sont là
avec les relais médiatiques qu'il y a. C'est pas utilisé peut-être tout le temps.
Et puis le problème, c'est qu'il faut être beaucoup à le faire d'accord à le faire, faire l'effort de le faire, parce qu'il y en a qui. Ça sert à rien.
Faut que ça résonne.
Mais c'est déjà arrivé ces derniers temps, même à minima, sur les réseaux sociaux, une marque qui est épinglée. Je ne sais plus, il y avait eu une firme, une chaîne de alimentaire, où un des responsables d'une succursale ou un truc comme ça était à l'effet de la chasse sauvage en Afrique. Il avait été épinglé très tôt. La marque a dû communiquer là-dessus parce que les gens ont justement décidé de boycotter cette enseigne.
D'un autre côté, est-ce que à cause d'un gars pas bien,
ébranler toute la chaîne
et surtout les salariés,
à un moment donné, moi, pour à différentes raisons, j'ai eu ce débat-là aussi avec d'autres personnes, et je me disais, ben oui, les pauvres salariés, quand même, ils n'ont rien demandé et ils se font. Mais je me dis, à un moment donné, il faut quand même. On ne peut pas laisser les gens agir en toute impunité, en bafouant tout, on va dire, que ce soit les entreprises qui déversent, qui polluent
les rivières
ou des. On ne peut pas laisser les gens agir impunément sous. Encore une fois, entre la peste et le choléra, il faut choisir, quoi. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et aussi, moi, je pars du principe. Alors, on n'a pas toujours le choix. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais quand tu vas travailler quelque part. Tu incarnes un petit peu. Donc, si tu choisis de rester là en sachant ce qu'ils font, c'est que. T'as pas le choix, c'est juste financier. Je vais pas généraliser. Mais des fois, si t'as un minimum de choix, tu vas voir ailleurs aussi, si tu peux.
On n'a pas entendu Valentine sur le boycott. Hein. Alors, tu pratiques le boycott, Valentine? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas?
Je fais aussi. C'est pas vraiment du boycott, mais c'est vrai qu'aussi, je fais attention à ce que je regarde au niveau d'achat. comme vous disiez, je dirais pas que c'est du boycott, mais c'est plutôt privilégier quelque chose par rapport à autre chose. C'est pas du boycott à proprement parler, parce que d'autant plus que des fois ça reste compliqué, peut-être même sur des points de vue financiers, c'est compliqué aussi de faire du boycott, parce que souvent, enfin c'est pas tout le temps bien sûr, je généralise pas, mais souvent si on peut pas boycotter, c'est aussi parce que souvent c'est souvent les trucs moins chers, donc financièrement c'est aussi compliqué par moment de boycotter.
Non mais c'est une réalité.
Je dirais que c'est une arme de dissuasion. Notamment.
Ah oui,
il faut l'utiliser peut-être comme ça en fait, parce que ça fait peur aux entreprises quand il y a une rumeur d'un boycott sur un produit ou sur une firme, ça peut faire réfléchir la firme.
Hein. Je pense justement que dans les revues de consommation et tout ça, quand il y a des articles qui paraissent sur certaines choses, les gens sont attentifs. Et alors, ils vont peut-être faire un boycott d'un mois, deux mois ou autre, parce qu'après, ils passeront à autre chose. Mais ça a beaucoup d'impact quand même.
Ça touche quand même le portefeuille. Hein.
Ouais. Comment ?
Dans le micro.
Oui, d'accord. Je dis, c'est vrai que ça a de l'impact, même si ça ne dure pas très très longtemps, parce qu'on passe à autre chose. Hein, pendant trois mois, c'est sur tel produit. Trois mois après, c'est sur tel produit de beauté. Mais ça impacte. On écoute et on lit et on retient quand même.
Bon. Et Valentine, tu ne boycottes pas le dessert à table pour protester contre tes parents?
Bon, je vois qu'on a tous une idée assez tranchée. On est plutôt favorable au final à cet acte militant.
Savoir l'utiliser. Voilà.
Je pense à bon escient.
Savoir l'utiliser et dans quelle sphère en fait.
En fait, quand on consomme, on a un acte responsable. Voilà, c'est ce qu'on peut dire.
En ce moment, pour la Russie.
Oui, aussi. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Tu as parlé des hippies tout à l'heure, Josiane. Eh bien, on va écouter un certain Johnny qui chantait « Cheveux longs, idées courtes ». À tout de suite.
Si Mr. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si Monsieur Gandhi soudain ressuscitait, il serait étonné quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs. Crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, sinon combien de larmes et de sang évité. Da-da-da-dam-dam. Mais bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs. Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Da-da-da-dam-dam. Et bien sûr, leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier, c'est une honte. Des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas, les hindous devront s'en contenter. Dadum, dadum, dadum. Avant de trouver les mieux, leurs cheveux seront longs. Si les mots suffisaient réaliser, tout en restant assis avec les bras croisés, je sais que dans une cage je serai enfermé, mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fait-on pousser du blé
en faisant des discours. Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faut-il pour être un homme ne plus chanter l'amour? Faut-il mendier son pain et ne plus être fier? Da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam. Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, 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 longs? Da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam.
Alors, c'était Cheveux longs et idées courtes de Johnny Hallyday. Certains d'entre vous ne la connaissaient pas, d'autres la connaissaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Notamment toi, Raphaël, qui ne la connaissais pas.
Moi, effectivement, cette année, mystère, je n'étais pas né. Voilà, c'est un indice. Hein. Et effectivement, il y a des chansons qui sont surprenantes parce que là, on est sur du vieux rock à la genèse, quoi. Jean-Jacques, t'en parleras mieux que moi.
Oui, je disais que c'était une chanson en réaction à la chanson d'Antoine, Les Élucubrations.
Couper les cheveux.
Voilà. Et je veux dire, où il parlait d'ailleurs de mettre de Johnny Hallyday en cas jamais d'Arnaud, il se posait la question. Et donc, bah, évidemment, ça a été mis à l'oubli. Alors, évidemment, Johnny Hallyday en ce temps-là, bon, était.
C'était quand même.
Il se roulait assez facilement par terre quand il chantait ses chansons sur scène et tout ça. Mais enfin, disons que ça pouvait. Ça faisait rigoler en même temps. Bon, ça excitait les jeunes. Hein. Et je veux dire que. Et donc, bah, ils ont décidé, alors, bon, ils étaient plusieurs, à faire une chanson, justement, en réaction à ça, pour se défendre. Et là, ils attaquent vraiment la chanson. Alors, apparemment, ils ne sont pas devenus ennemis, hein, mais c'était une réaction pour rigoler. Et. Quand on écoute les paroles, ça reprend un petit peu les thèmes que Antoine fait dans sa chanson, qui était une chanson rigolote. Hein.
Oui, oui.
C'était, y a pas de problème. Mais bon, y a eu une réaction un petit peu, voilà, une petite vengeance.
Moi, j'avais à cette époque-là les cheveux longs.
Et donc, on va passer à la chronique de Jean-Jacques.
Ah, UFC, c'est que déjà choisir. Moi. Bien. Alors oui, c'est une chronique, donc l'UFC que choisir. Alors là, on va parler d'espace santé. Il y a 69 millions d'assurés à la sécurité sociale en France. Notre système de santé s'adapte enfin au monde réel avec un site internet qui remplace le dossier médical partagé, DMP. Chaque assuré social peut y compléter son profil, pardon, avec les informations utiles et accessibles aux professionnels de santé. La santé ne fait pas bon ménage avec l'informatique, au moins chez les patients. La carte vitale n'a que 25 ans, alors que la carte bancaire existe depuis près de 40 ans en France. Le système de dossier médical informatisé, attendu pendant 20 ans, presque inutilisé depuis sa mise en service, il y a 10 ans, n'a jamais convaincu. Le ministère de la Santé a ouvert aux 69 millions d'inscrits à l'assurance maladie un système numérique enfin complet et partagé. Le site internet Monespace Santé, monespace.fr, voilà, vous connaissez ça, est ouvert depuis fin 2021, c'est récent. Hein. Tous les assurés majeurs sont ou seront informés par un courrier postal ou un mail de l'assurance maladie. Si l'intéressé ne s'oppose pas à son ouverture dans le délai d'un mois ou s'il a déjà activé son profil, le compte est effectivement ouvert. Le système est géré par des entreprises françaises soumises au cahier des charges très strict du ministère pour la confidentialité des échanges. Il reprend le contenu du dossier médical partagé, caractéristiques biométriques et historiques de soins, ordonnances, analyses et rapports d'hospitalisation. Une messagerie sécurisée permet aux professionnels de transmettre à l'assuré tout document ou information le concernant. Cette plateforme sera progressivement complétée avec un agenda de rendez-vous et d'alerte de suivi du patient. Des applications sur smartphone vont aussi enrichir le dispositif pour développer la téléconsultation, par exemple. L'accès sera facilité par la possibilité de déléguer à un proche son habilitation et des formations vont être dispensées aux usagers qui en auraient besoin. Enfin, la carte vitale sera bientôt dématérialisable gratuitement sur smartphone pour tous les assurés. Voilà.
Merci Jean-Jacques. Alors moi j'ai une expérience déjà sur mon espace santé. J'ai ouvert le mien, j'ai ouvert celui de ma mère et je n'ai pas réussi à ouvrir celui de mon père qui avait reçu le courrier postal avec un code un long comme le bras de caractère alphanumérique minuscule majuscule avec des chiffres. Hein, voilà. Donc c'est pas violable. Hein. Effectivement, tout le monde ne peut pas se connecter si simplement. Je pense que ce qui a posé problème, c'est précisément la carte vitale de mon père parce que c'était dans les premières cartes vitales et des cartes vitales sans photo et à mon avis il n'y a pas de rapprochement à la sécurité sociale entre le dossier créé et la carte vitale. Et voilà, donc ça veut dire que si vous rencontrez quelques difficultés, bah, je crains qu'il faille se déplacer à la CPAM.
C'était une autre chronique de l'UFC que choisir, non.
Non, mais concrètement, tu t'installes sur mon espace assez facilement. Quoi.
Oui, après, alors, chacun verra midi à sa porte, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir les données de santé consultables par des professionnels. Mmh. Moi, je prends l'exemple de l'urgence vitale. On est renversé sur la route, le médecin accède au dossier santé et on voit si la personne est allergique à un médicament. Bah, ça aide à prendre des décisions quand même, j'imagine.
Non, dans les faits, je trouve ça utile aussi. Ça facilite les choses, enfin, aux professionnels de santé. Si à nous, comme on dit, le nombre de fois on prend une ordonnance ou quelque chose et on oublie ou on l'a perdu, on sait que même des années après, on le retrouve. Et même à la radio tout à l'heure, j'entendais en venant
une
dame. Non, j'ai fait des infidélités, c'était pas radio G. et une dame qui a perdu son mari et les assurances lui demandent.
Oui, j'ai entendu ça. Je l'ai entendu aussi.
De sortir des documents depuis 2011, alors qu'ils se connaissaient pas à ce moment. Peut-être que si on a accès à l'espace santé, on retrouve des ordonnances, des enfants, un parcours déjà.
Ils refusent de rembourser en disant qu'il y avait des antécédents et tout ça. Il faut aller prouver. Et elle a pu. Les ordonnances, elle n'a plus rien, quoi.
Après, moi, je mets quand même un petit bémol. On est quand même à l'ère du numérique, on est quand même dans un monde où le piratage existe.
Oui.
Et donc, ça veut dire que si quelqu'un pirate, réussit à pirater ça, a accès, c'est une autoroute, a accès à vraiment à tout. C'est juste le petit bémol, en fait. Ouais. Et comme toute chose, on va dire, la bombe atomique, au départ, ça a été créé pour casser des montagnes, finalement, ça s'est bien fait des guerres. Bon, voilà. Mais tout dépend de ce qu'on en fait. Et
alors, d'après Raphaël, avec les numéros qu'on donne, c'est pratiquement inviolable, quoi.
Bah, honnêtement, enfin.
Le numérique, rien n'est inviolable. Hein.
Non, mais on est d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a un niveau de sécurité qui est élevé.
Oui,
et donc. Si c'est une attaque, c'est une attaque organisée. Voilà, c'est pas
comme ce qui est arrivé récemment aux hôpitaux, aux mairies.
Ils sont tellement forts.
Mais pas par rapport à ça, par rapport à la sécurité. Voilà, c'était la sécurité au niveau de ce compte-là, mais la sécurité bancaire, par exemple. Je me suis toujours posé la question. Tu te sers de ta carte bancaire. Sur ta carte bancaire, t'as tout. Il y a ton nom, il y a ton numéro complet. Il y a derrière le code 3 chiffres ou 4 chiffres. Tout est marqué dessus. Pourquoi tout est marqué? C'est ta carte, tu la connais, tu connais ton nom. On ne demande pas le numéro. Si on te le demande, c'est parce que on te téléphone, mais tu peux le savoir ailleurs. Si tu perds ta carte, si tu laisses ta carte dans une borne, ou dans une pompe à essence ou un truc comme ça et que tu peux pas la récupérer, tu dis, mais attends. Et ils ont tout, là. Enfin, ils ont presque tout. Ils ont pas le code pour encaisser.
Mais là, l'opposition est rapide quand même.
Mais ce que je veux dire, pourquoi il y a tout? Pourquoi? Et quand par exemple tu récupères ton ticket de paiement carte bancaire, il n'y a qu'une seule partie du numéro de la carte. Alors que là, sur la carte, tout est marqué. Donc, je veux dire, cette personne-là qui récupère ta carte et qui est malveillante peut très bien faire des achats sur Internet.
Ton nom et tout le reste.
Mais ça revient, Jean-Jacques, au problème de confidentialité, que ce soit sur les données bancaires ou sur la santé. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partager ces informations-là et c'est respectable. Moi, je suis toujours surpris parce que je me dis que mon banquier, il en sait bien plus sur mes habitudes de consommation que ma conjointe ou que moi-même des fois. Le banquier, il sait parfaitement ce qu'on dépense, comment on le dépense. Voilà, enfin, on a un profilage avec nos données bancaires. Et ça dérange personne depuis 40 ans. Après, les données de santé, c'est évidemment quelque chose de personnel qu'on ne peut avoir envie de partager ou pas. Hein. Même au plus haut rang de l'État, j'ai souvenir d'un président qui voulait pas déclarer qu'il était malade.
Bien sûr.
Donc, c'est de la liberté individuelle. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà, aujourd'hui, on peut pas faire autrement, quoi. On va enchaîner avec un nouveau morceau musical. Je vous propose d'écouter Michel Polnareff avec une chanson que vous connaissez tous. Love me, please, love me. Oh.
Love me, please, love me. Je suis fou. Love me, please.
Michel Polnareff. Donc là, on va passer à la chronique musicale qui est un peu spéciale aujourd'hui parce que ça va pas être en lien avec l'année mystère. Donc déjà, on peut annoncer peut-être l'année mystère de cette émission.
Non, non, mais vas-y, toi.
Ah non. Je n'ai pas d'album de l'année. Et j'ai pas dit l'année.
Tu l'avais dit l'année.
Il l'a gommé.
C'est une bataille de politesse.
Celui qui l'annonce ne paiera pas plus cher.
Je paierai pas plus cher, c'est garanti. J'ai pas besoin de ma carte bancaire. Alors, 1966, voilà.
Une belle année.
Oui. Je ne saurais pas dire, je n'étais pas là.
C'est vrai, je ne sais pas non plus si c'est une belle année.
Mais c'est-à-dire que l'avantage en avançant, c'est qu'on ne se souvient que des belles choses. Hein. On oublie un peu tout ce qui est enquiquinant.
Bon bah écoute, en l'occurrence en 1966, moi je me souviens que des belles choses, voilà, c'est ça qui est bien. Pour cette année 1966, Jean-Jacques ne nous a pas concocté un album de l'année mystère, mais Valentine et Jean-Jacques ont travaillé ensemble pour une chronique, on va dire, inédite sur les plagiats musicaux. Donc Valentine et Jean-Jacques, on vous laisse intervenir.
Eh bien d'accord Jean-Jacques, je commence. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs chansons qui ont été plagiées au cours du temps. Voilà, c'est pas nouveau, ça peut être des récentes, ça peut être des très vieilles, ça dépend énormément. Et puis, on vous a fait un petit, peut-être pas blind test, mais on va faire un petit comparatif pour que vous puissiez reconnaître les chansons qui ont été plagiées ou qui ne l'ont pas été, tout simplement. Alors, pour l'instant, au début, je vais d'abord vous faire écouter cette chanson et vous allez me dire de quel titre il s'agit.
Et moi, je dis que ça ressemble à une autre. Femme libérée.
Oui, c'est ça, Femme libérée.
Alors, quelle chanson vous dites ?
Killinger. Femme libérée.
Femme libérée, oui.
Femme libérée. Oui. Et si je... Très bien. Et si je vous fais écouter maintenant cette même chanson.
Femme libérée.
Ça, c'est plutôt ça.
Eh oui.
C'est les mêmes. C'est impressionnant. impressionnant. Bon, ben bravo.
En effet, donc la première chanson, c'était pas du tout Femme Libérée, mais c'était une autre chanson qui s'appelait The Passenger de Iggy Pop, qui est parue quelques années auparavant.
Accompagnant plus.
Allez, dans la battle de plagiat, on va donner la parole à Jean-Jacques.
Alors, moi, je vais commencer d'abord avec une chanson.
Juste, Jean-Jacques, je peux juste finir de petites minutes, parce que cette chanson de The Passenger n'est pas la seule à avoir été... ce n'est pas la seule chanson qui a été reprise en plagiat. Nous avons aussi une chanson encore plus récente de...
T'as fait une triplette, là.
Et oui, j'ai fait une triplette.
Et j'en ai une aussi, t'inquiète pas. Allez, vas-y, vas-y. C'est quoi la troisième?
Les triplettes de Belleville.
Je chante pour ceux qui passent.
Jean-Louis Aubert.
Eh oui, c'est Jean-Louis Aubert à ceux qui passent. Et la petite particularité en plus, c'est que le texte est une sorte de réponse à la première chanson de Iggy Pop avec The Passenger, donc le passager, et avec Jean-Louis Aubert qui est à ceux qui passent, qui est une sorte de réponse à la première chanson. Je te laisse reprendre, Jean-Jacques.
Oui, donc en fait, oui, c'est un clin d'œil en même temps. Hein. Moi, c'est une chanson qui date de 1979, alors, mais d'un groupe très connu mondialement, qui s'appelait Alan Parsons Project. La chanson, c'était « If I Could Change Your Mind ». Si. Oh, c'est bien. La deuxième, et écoutez bien ça.
Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur.
C'est les mêmes notes, c'est la même chose.
Je reconnais le piano.
Alors, la chanson d'Alan Parsons Project était de 79, mais celle de Françoise Hardy et Michel Berger datait de 73. À toi.
Alors, moi, je vais partir sur une chanson un peu plus récente qui est de Robin Thicke et de Pharrell Williams qui s'appelle Birdline. Everybody get up. Donc, cette chanson est parue en 2013 et elle a connu d'ailleurs un très gros succès.
Très gros succès, oui.
Très gros succès et aussi une très grosse polémique vis-à-vis d'un plagiat, justement, d'une chanson qui est bien plus vieille, de Marvin Gaye, qui s'appelle Got It, Give It Up. Plus que les ouh, et on a exactement la même mélodie.
Mais c'est on le sait pas. Enfin, je veux dire que on peut pas le savoir sur les jaquettes de disques et tout ça, c'est pas marqué de toute façon. C'est pas
ah non, ça n'a pas été crédité. C'est pour ça que c'est un plagiat. Petite précision d'ailleurs, une chanson, si elle est créditée dans un album, ça va pas être un plagiat. Ça peut être un clin d'œil ou un hommage, mais c'est pas un plagiat. À partir
d'un sample,
un sample, il faut aussi que ce soit crédité. Si c'est pas crédité en fait dans les pochettes d'albums, eh bien là, ça devient du plagiat, que ce soit un sample ou la mélodie en elle-même.
D'accord.
Voilà. Je te laisse continuer, Jean-Jacques.
À moi. Alors là, je vais vous dire ce qu'il en est, hein, et après vous allez écouter pendant une minute, hein, et ça sera évident, enfin pour moi ça l'était. L'air original est en réalité le très célèbre de Greensleeves, un air traditionnel populaire anglais datant probablement du 15e siècle. On le retrouve entre autres dans un air de Noël, What Child Is This. Air repris maintes et maintes fois notamment dans le film mythique La Conquête de l'Ouest. Peut-être est-ce entre autres pour cette raison que Brel n'a jamais aimé sa chanson Amsterdam, à tel point qu'il n'a pas voulu l'enregistrer en studio. La version de cette magnifique chanson qui fout les poils n'a été enregistrée qu'en public. Donc, Beethoven contre Brel. Allons-y.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes.
savoir que Beethoven a écrit 180 chansons. Des chansons. Il n'a pas fait que des symphonies, Beethoven. Il avait passé un contrat, hein, donc ça lui a rapporté des sous quand même. Hein. Il n'était pas que sourd, il était aussi.
C'est le vrai Beethoven, c'est pas quelqu'un
Ludwig
qui a repris
Ludwig van. Ouais. Il a passé un contrat avec un roi, alors je ne me rappelle plus trop et tout ça. Et en fait, ça avait lieu avec l'Irlande, l'Écosse et tout ça. Et il a fait plein de chansons, dont celle-ci. Qu'il a repris, qu'il a modifié aussi, parce que n'oubliez pas que ça datait du 15e siècle.
Mais c'est ce que j'allais. En fait,
Beethoven, c'était après.
Non, mais ce que j'allais dire, en fait, concernant justement, on disait quand c'est crédité, bah, du coup, c'est plus un plagiat. Et au bout d'un certain temps, je crois que c'est 20 ans, je ne sais plus quand. Franchement, c'est comme les crimes, ça tombe
sur le droit public,
commun. Et quand ça tombe sur le domaine public, est-ce qu'on est encore obligé de créditer? Parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui reprennent entièrement des chansons de la variété française.
Gainsbourg a fait plus de 50% de ses chansons adaptées de grands airs classiques. Et il le disait, point final.
Non. Donc là, je me pose la question. Beethoven, Brel. Je trouve qu'effectivement, c'est complètement plagié.
Dans le domaine public, malgré tout, on peut avoir le droit, mais je crois que ce qui est bien, c'est de le dire.
Ah oui, non, mais c'est justement la question que je posais, en fait.
La chanson d'Amsterdam est magnifique.
Elle est
magnifique. Ouais,
un artiste qui sera encore vivant et qui ne veut pas qu'on plagie.
Alors, c'est arrivé un peu plus récemment avec des artistes plus modernes. Quand j'étais plus jeune, il y avait un jeune groupe de rap qui émergeait à l'époque, Science of Acro. Écoutez. Et plus tard, il y a un chanteur que je connais moins qui a repris la chanson Angela. Angela qui avait, je ne sais pas si ça vous parle, mais Angela qui était vraiment un succès. Et ça faisait 20 ans. Et du coup, ils interviewaient un ex-membre du groupe, Sayan, et il disait, non, il ne nous a jamais demandé la permission. Ils sont tous vivants, ils sont tous jeunes, ils ont aujourd'hui la quarantaine. Il ne nous a jamais demandé la permission. Aujourd'hui, c'est tombé dans le domaine public, donc il a le droit. Donc, il a repris. Il dit, on n'a jamais rien eu. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de retour,
droit
de royalties.
Rien.
Et il a même pas eu la gentillesse de leur demander, alors qu'ils sont encore tous là et tous vivants. Mais bon. Il avait le droit, donc il l'a fait.
Bah, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Enfin, oui, mais à défaut de l'honnêteté financière.
Oui. Pour moi, c'est ça.
Mais quand le chanteur est encore vivant.
T'as le droit, mais la moindre des choses, c'est de le dire.
C'est de faire référence à l'auteur.
Ou au moins, tu sais qu'ils sont
toi,
pas là.
À toi, Valentine.
J'ai plutôt des chansons assez récentes parce que c'est des plagiats que du coup j'ai connues.
C'est normal, ça. C'est bien.
Que là, ça va être une chanson de Bruno Mars qui date de 2012 qui s'appelle Treasure. Et ça va être au niveau du refrain.
C'est des chansons que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'est un tube. À la salle de sport, on n'entendait que ça. Tout comme le Pharrell Williams.
Toutes les chansons de Bruno Mars, c'est toujours des tubes, de toute façon.
Oui. Mais cette chanson, en réalité, est un plagiat. C'est un plagiat d'un DJ français qui s'appelle Breakbot, qui avait fait l'année d'avant Baby I'm Yours, et ça s'entend bien au niveau du refrain.
Ah oui.
Et pour l'anecdote, on sait vraiment que c'est un véritable plagiat parce que Bruno Mars, l'année d'avant, avait justement demandé les droits au DJ français qui avait refusé.
Ah oui. Et il a autre passé. Et du coup, il n'a pas été poursuivi pour ça. Il n'a pas.
Ah si si si. Okay, il a été poursuivi.
C'est une copie conforme là pour le coup. C'est au-delà, pour moi, c'est au-delà du plagiat. C'est une photocopie quoi. Enfin,
en général, ça se règle financièrement ça. Et tout comme comment il s'appelle, Manu Dibango, quand il avait fait, avait contesté justement par rapport. Oh, excuse-moi. Quand il avait contesté une chanson de Michael Jackson. Hein.
Oui, et donc financièrement, ça a été très célèbre aussi, l'un des plagiats célèbres. Oui.
Alors, je suppose que c'est à moi. Alors, moi, évidemment, c'est plus ancien. Ah, donc Jean Gomin, alors. Hein.
Oui, parce qu'on a dépassé une heure d'enregistrement.
Tu choisis.
Bon, alors, là, c'est, je vais prendre celle-ci. Alors, les Shocking Blue, Vénus, ça vous dit rien? Quand vous allez entendre le truc, c'est intéressant. Les Shocking Blue en 1969. Version ça. Alors, 1969, les Shocking Blue. En 1963, musicalement, Vénus est largement inspiré de la chanson The Banjo Song, interprétée en 63 par The Big Three. les Big 3. Un trio dont les paroles différentes, elles étaient pompées sur une autre chanson datant de 1848. Alors, allons-y.
On n'était pas nés là.
Les arroser, arroser.
Ah, c'est dommage. c'était vraiment ressemblant. Et suivra 17 ans après la version des Shocking Blues, celle de Bananarama.
Merci Valentine et Jean-Jacques. Je vous propose de nous quitter exceptionnellement, pas sur le jingle de l'émission, mais sur la dernière chanson qu'on n'aura pas le temps de passer dans son intégralité. Il s'agit pour l'année 1966 de Sheila, avec l'heure de la sortie. Bah, ça tombe bien, on va sortir. Hein. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission dans 15 jours. Merci Valentine.
Ben merci à tous et puis passez tous une bonne journée.
Merci Ricardo.
Merci.
Merci Jean-Marc.
Merci.
Merci Josiane.
Merci Jean-Josiane.
Et merci Jean-Jacques.
Merci bien.
À bientôt.
À bientôt.
Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins. Mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point.
Sébastien, et puis Paulette.